qui tue par l'épée périt par l'épée. Cet adage rattrape-t-il l'ancien ministre de l'administration territoriale Pascal Bodjuna, qui est arrêté samedi dernier et gardé à la gendarmerie de Lomé? Eh bien, c'est ce que constatent les Togolais. On l'appelait ministre grand format, non seulement à cause de sa taille et de sa corpulence imposante, mais surtout à cause de la façon dont il défendait corps et âme le régime de Nyasimbe le père jusqu'à l'arrivée au pouvoir du fils fort Nyasimbe. Arrêté dans une affaire d'escroquerie internationale d'une valeur à peu près de 25 milliards de francs CFA, Pascal Bodjuna évoque une instrumentalisation de la justice togolaise où il devrait normalement paraître le 7 septembre. Tollé général au sein de la classe politique togolaise qui pense que cette affaire, à l'allure où elle va, est traitée comme une affaire d'État. Certaines sources nous font également croire que le jeune président Faure Gnassingbé piloterait cette affaire depuis le palais présidentiel. La justice togolaise rattrape-t-elle les tout-puissants comme le Togolais ordinaire? Jusqu'où ira le collectif Sauvons le Togo? Que fait concrètement la diaspora togolaise pour soutenir les actions de ce collectif? Eh bien, pour en parler, nous accueillons dans un instant Dr Yves Ekwe Amaizo, coordinateur général du collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora. Dr Yves Ekwe Amaizo, bonsoir.
Bonsoir, Amos.
Merci d'être l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Je le disais tantôt, vous êtes le coordinateur général du collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora. Vous êtes également consultant international et vous enseignez dans un business school. Alors l'actualité, Yves, et l'actualité qui défrait quand même la chronique au Togo cette semaine, est l'arrestation de l'ancien ministre de l'administration territoriale Pascal Bodjuna, alors dans une affaire d'escroquerie internationale qui oppose Bertin Agba et l'émirati Abbas Youssef. Et cette arrestation a suscité un tollé général, vu le rôle qu'avait joué Pascal Bodjuna dans les arènes politiques togolaises depuis la prise du pouvoir de Faure Gnassingbé en avril 2005. Dr Yves Ekwe Amaizo, dites-nous concrètement en quoi l'arrestation de Pascal Bodjuna peut-elle influencer le climat insurrectionnel que vit et depuis un certain temps le Togo?
Merci d'abord de l'invitation. Rappelons tout d'abord que Pascal Bodjuna, cet ancien ministre de l'administration territoriale et aussi porte-parole du gouvernement par les temps passés, est d'abord pour nous un homme de l'organisation de la contre-vérité des urnes au Togo, notamment en 2010. C'est par son ministère que les résultats des élections présidentielles togolaises ont été transformés en favorables à Faure Gnassingbé, transmises à la Cour constitutionnelle du Togo. C'est aussi par son ministère qu'on a empêché des candidats, dont un Kofi Nyam Nyam, de participer aux élections présidentielles. Donc, d'empêcher le peuple togolais de faire son choix. C'est aussi lui, et par lui, que des exactions sur la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ont eu lieu. Donc tout ceci est à son actif. Donc pour le CVU Togo Diaspora, ce n'est pas un tollé. C'est la suite normale de difficultés, de crises profondes au sein du système UNIR, le système RPT de Faure Gnassingbé, du fait des actions conjuguées du FRAC et du CST, le collectif Sauvons le Togo. Ça a créé des dissensions internes assez profondes qui divisent cette fois-ci la structure. Ceux qui veulent bien sûr trouver une solution à l'amiable et qui ont perdu, ce qui a fait partir l'ancien Premier ministre, Rumbo, et ceux qui veulent la méthode dure, sans trop savoir le résultat et l'impact au niveau international, et qui sont actuellement aux commandes. Sur le dossier lui-même, garde à vue, bon, c'est ce qu'on dit. Nous estimons au CVU Togo Diaspora qu'il y a eu un kidnapping, qu'il y a eu un enlèvement d'un individu qui était l'ancien ministre. Il y a deux dossiers en cours, vous le savez comme moi, un dossier Bertin Agba, aussi dans une histoire d'escroquerie internationale, dans lequel le même monsieur, actuellement, l'ancien ministre Pascal Bodjuna va intervenir, ou devrait intervenir, comme témoin, maintenant il est en prison, on ne sait pas comment ça va se passer, et un deuxième procès qui lui est directement intenté et dans lequel apparemment il a été, disons, mis en garde à vue en attendant de savoir ce qui va se passer. Alors, quand vous savez ces deux dossiers, nous, CVU Togo Diaspora, nous ne rentrons pas dans la décision de justice. Nous estimons qu'il y a un Togolais, citoyen togolais, qui aurait dû obtenir au moins la faveur d'un système judiciaire togolais neutre, parce que, comme tout Togolais, il y a une présomption d'innocence, et quand on l'attaque, il faudrait que ses avocats puissent intervenir. Donc c'est plutôt ça qui pose problème. L'histoire de l'enquête préliminaire, mais il n'y a pas de problème de faire une enquête préliminaire quand Pascal Bognona reste à la maison. Il ne peut même pas voyager, on lui a enlevé son passeport. Non, la présomption d'innocence n'apparaît pas au Togo. Mais c'est plus grave, il y a un dernier point très important, c'est que quand même, ce monsieur, Pascal Bognona, a vu le président Fonia Singbe. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. C'est à la suite de cela qu'il a été interpellé. Mais ce même président a vu aussi la personne qui, étrangère, l'Émirati, qui a demandé, en fait, demandé, c'est de ça qu'il s'agit, de mettre en prison Pascal Bognona. Bien sûr, personne ne peut ignorer qu'il y a deux frères ennemis au pouvoir, en tout cas qui étaient au pouvoir, c'était Pascal Bognona et l'actuel Premier ministre Zoulou. Les deux ne se supportent pas. Donc, vous comprenez bien que dans cette guerre interne, c'est plutôt M. Zoulou, aujourd'hui, qui a gagné. Mais compte tenu de leur façon de fonctionner, on ne sait pas jusqu'à quand tout cela va durer.
Docteur Yves Ekwe-Amaizo, parlons maintenant du climat insurrectionnel au Togo. Le collectif Sauvons le Togo a demandé au peuple togolais d'observer, selon l'article 150 de la Constitution togolaise, une désobéissance civile. Est-ce que cet appel lancé par ce collectif n'est pas prématuré dès lors que les populations togolaises ne semblent pas être des adeptes de la culture du désobéir, hein? Et même ces populations, il faut le dire, hein, sont peu sensibilisées et pourraient ne pas véritablement suivre cet appel à la désobéissance civile sur le long terme, Yves Kouyamaïso.
On comprend bien votre inquiétude. Mais mettez-vous à la place d'une population qui est pacifique, qui n'a pas d'armes, qui depuis plus de 48 ans n'arrive pas à faire passer la vérité des urnes, et que la Constitution, l'article 150, Constitution de 92, dit expressément, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement et de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire, ce qui n'a pas encore fait la CST ni les partis d'opposition d'alternance, ou de défense existante. Donc c'est le peuple qui se lève aujourd'hui et qui se dit « je vais d'abord désobéir, je vais m'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime puisqu'il n'y a pas vérité des urnes ». Et c'est un droit le plus sacré de la population togolaise. Donc il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Les manifestations de CST sont dans le droit. Celui qui n'est pas dans le droit est celui qui est au pouvoir, qui a usurper la vérité des urnes, dont le désordre vient de celui qui attaque ceux qui veulent faire cela. Et donc, le désordre vient du fait que des militaires non républicains attaquent donc ceux qui manifestent pacifiquement. Même les religieux qui tentent parfois, de manière zélée, d'empêcher les discussions d'aller jusqu'au bout et qui disent de calmer le jeu font partie de cela. Certains sont en train de changer, faut-il encore voir sur pièce. Alors, il ne peut pas tous ensemble faire oublier l'usurpation du pouvoir par l'absence de vérité des urnes. C'est ça le problème fondamental. Le deuxième qui se greffe dessus et qui est lié à votre première question, c'est qu'en fait, dans ce pays, le Togo, comme d'ailleurs ailleurs, celui qui accumule de la richesse, beaucoup de richesse, a le pouvoir de soudoyer, de payer des militaires non républicains. Et donc, faire un coup d'État. Et donc, créer des nouvelles alliances pour faire sauter celui qui est au pouvoir. C'est de ça que Fonia Singbe a peur fondamentalement. Donc toute accumulation de richesses doit être stoppée d'une manière ou d'une autre, voire même si on peut récupérer cette richesse-là. Donc le premier procès de M. Agba, quels que soient les problèmes juridiques et d'escroquerie qu'il y a derrière, a d'abord ça comme objectif. Celui de Fonia Singbe n'est pas différent. Et enfin, celui de Pascal Bognona n'est pas différent. Donc vous voyez bien qu'il y a deux états. Il y a l'état des Togolais pauvres qui n'arrivent pas à manger tous les jours, puis à l'état d'une oligarchie de Togolais riches qui, eux, dans leur petit groupe, parfois ésotérique, parfois ceci ou cela, s'organisent pour conserver ad libitum ce pouvoir-là.
Docteur Yves Ekouya-Maison, et malheureusement, je ne vous coupe pas parce que j'ai encore plein de questions ici à vous soumettre ce soir. Et la question de la neutralité de l'armée togolaise revient souvent dans la discussion. Le collectif Sauvons le Togo a encore récemment lancé un appel à l'armée de ne plus réprimer les manifestations. Et comment expliquez-vous le fait que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo, Docteur Yves Ekouya-Maison?
L'armée était au service d'un pouvoir. Ce pouvoir permettait à cette armée de vivre et donc d'avoir un emploi. L'armée s'est organisée aussi pour que le peu qu'il avait grossisse. Donc l'armée est devenue, une partie de l'armée non républicaine, est rentrée dans l'économie. Donc ils contrôlent un pan entier du système économique togolais et vivent de cela. Ce sont des rentiers essentiellement d'ailleurs. Et pire que des rentiers, quand quelqu'un a fini de faire le travail, sous les ordres de ceux que vous connaissez, ils viennent piller ou prendre de manière autoritaire. Il n'y a pas lieu de remonter à l'affaire Audemars ou d'autres comme ça. Donc la réalité de cette armée, c'est qu'elle n'est pas dans sa fonction première. Si elle était dans sa fonction de défense des intérêts du peuple togolais, et donc des frontières togolais d'abord, et de protéger les Togolais, les citoyens togolais, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'elle prend parti. Elle a pris parti pour le système en place parce qu'elle en vit. Elle vit des rentes de ce système. Et elle-même, en interne, a des problèmes internes, puisqu'il y a des républicains, et il y a des militaires républicains, et il y a des militaires non républicains. Tant que la majorité n'ira pas vers les militaires républicains, vous n'aurez pas de changement, puisque c'est ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte et ailleurs. L'armée, soit elle reste neutre, auquel cas il n'y a pas trop de problèmes, c'était le cas du Sénégal, soit cette armée a pris position. Mais prenez le cas du Niger, l'armée s'est mise du côté du peuple, avec tout l'honneur et le respect qu'on lui doit, a remis aussi le pouvoir aux civils. Ce n'est pas le cas de l'armée togolaise. On parle d'armée éthique, d'armée intègre. Ce n'est pas le cas togolais. C'est une armée clanique qui se met dans un clan et choisit son clan. Et ce n'est pas une histoire de Nord-Sud, c'est une histoire d'argent. Et donc, bien sûr, le président de la République, Fornia Singwe, en tout cas celui qui dit qu'il est président, décide que celui qui va avoir trop d'argent risque de faire sauter cet équilibre-là. Voilà le rôle de l'armée togolaise. Alors bien sûr, vous avez des gens très très bien dedans, mais vous avez des gens qui sont moins bien aussi dedans. Donc il faut faire attention à cela, parce que c'est ça le fondement de toute cette histoire. Donc il est très important de réfléchir que toutes les techniques qui vont être mises en place, c'est de s'assurer que l'armée reste du côté de ce pouvoir-là, et donc on va sortir de l'argent pour payer cette armée. Imaginez qu'on arrive à mettre la main sur l'argent de M. Bojona, et l'armée de Pacha. Tout cet argent, vous croyez quoi? Mais on va l'utiliser pour justement financer cette armée pour qu'elle reste docile, hein, et pour celui qui est au pouvoir. Mais si on n'y arrive pas, pour des raisons ici, ça change de camp. Les alliances sont nouvelles et différentes. Il y aura du changement au Togo.
Docteur Yves Ekouya-Maison, rapidement, une dernière question. Revenons maintenant vers la diaspora. Et à vrai dire, on ne sent pas une grande mobilisation des Togolais de l'étranger aux côtés du collectif Sauvons le Togo. Hein. Vous êtes un membre influent de la diaspora togolaise. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce phénomène, Docteur Yves Ekouya-Maison?
Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de mobilisation de la diaspora. Ce qui se passe, il ne faut pas confondre la diaspora qui est à l'extérieur, qui n'est pas sur le territoire togolais, et qui donc ne peut pas en fait manifester en tant que tel, parce qu'il n'est pas sur son espace, avec ce qui se passe au Togo. La diaspora est présente parce qu'elle envoie quand même de l'argent. L'argent n'a pas besoin d'être envoyé spécialement pour des manifestations. Le fait même de faire que le peuple togolais, ceux qui sont restés au pays, reçoivent plus de 330, 340 millions par an de la diaspora togolaise partout où elle est déjà un soutien massif pour justement venir en aide à des populations pour lesquelles ce gouvernement n'a rien fait. La pauvreté a augmenté au Togo. Même la Banque mondiale le dit. La deuxième chose, il y a d'autres formes de mobilisation de la diaspora qui consistent justement à éveiller l'attention des parlementaires, des responsables, des dirigeants des pays dans lesquels nous vivons ici et là. Vous ne pouvez pas savoir tous les messages que reçoivent les parlementaires français, européens, et j'en passe, et des meilleurs régulièrement. Même Obama et même le gouvernement américain répond en disant, on leur demande même si vous ne voulez plus recevoir les informations que nous vous envoyons, dites-le nous. Ils disent non. Ça les intéresse. Donc, ils lisent ces informations. Ils sont documentés mieux, avec une point de vue d'ailleurs de la diaspora, qui permet d'éviter qu'il y ait tel ou tel clan, parce qu'il y a beaucoup plus de neutralité dedans. Non, vous ne pouvez pas dire que la diaspora ne fait pas son travail. La diaspora n'est pas physiquement sur place, je vous le reconnais. Mais la diaspora a d'autres formes pour soutenir.
Docteur Yves Kouya Maïzo, rapidement, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Si vous avez un dernier mot, et vous pouvez le dire également, puisque le Togo vit actuellement une situation très, très, très tendue, où là, chacun se dit qu'adviendrait demain pour le Togo.
D'abord, le CCVU Togo continuera toujours à soutenir le peuple togolais dans sa lutte. La deuxième chose qui est très importante, il paraît que dès lundi, je crois que le gouvernement a compris qu'on ne pourra pas continuer, les luttes continueront, et donc ils appellent à une sorte de dialogue, ils appellent le même large dialogue politique. Dedans, nous avons identifié l'UFC, l'UNIR, l'ANC, le CAR, CPP, PDR, CDPA, PDP, Alliance, PRR, P2R, ABUT, OBUT, pardon, GF2D et RECANF. Mais vous ne voyez pas ni CST. Vous ne voyez pas Sursaut, vous ne voyez pas la diaspora, justement, dont vous parlez, CMDT par exemple, ou d'autres. Ce qui veut dire que le choix a été bien précis et on risque de retomber dans les dialogues que nous faisions avant qui ne donnent pas grand-chose. Il ne faut pas s'étonner que Faure refuse toujours de recenser la diaspora. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au moins les propositions faites par CST fonctionnent. Il y a au moins des témoins neutres, notamment le PNUD, notamment l'Union européenne, qui vont apparemment participer à tout ceci. Et je pense que ce n'est pas une réunion qui va se faire lundi qui va régler le problème. C'est une série de concertations qui vont aller en élargissant le nombre de représentants, y compris ceux de la diaspora, qui va permettre de trouver des solutions. Parce qu'au fond, encore une fois, ce n'est pas les procédures qui posent problème, c'est le non-respect des procédures. Tous étaient là avec la CENI, avec tout ce qu'il fallait. Même le PLUD n'a pas transmis les bons résultats la dernière fois. Donc vous voyez que le fait de ne pas rester et de respecter les procédures ont créé la contre-vérité des urnes dans ce pays. Il ne faudrait pas que ça recommence et on ne peut plus faire confiance à 100% à ces gens qui eux-mêmes ont trafiqué le système. Donc il faut arriver avec une discussion paritaire. D'un côté, ceux qui se disent ils veulent l'alliance, de l'autre, ceux qui disent qu'ils sont pour le pouvoir. Évitez la confusion parce que Faure ne veut pas quitter ce pouvoir avant des années. Ne vous faites pas des idées sur l'objectif. Et donc, dans ce genre de cas, c'est comme en Tunisie, c'est obligatoirement un mélange de l'insurrection, un mélange d'une armée qui a changé de position, qui ne veut plus seulement manger pour grossir,
Merci.
Hein, pour ne pas faire grand format, comme on dit, mais pour défendre le peuple togolais.
Merci, merci. Docteur Yves Ekwea Maizo, infiniment merci d'avoir été l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Je le disais que vous êtes le coordinateur général du collectif pour la vérité des urnes, CVU et Diaspora. Et votre site internet, c'est cvu-togo-diaspora.org. Vous êtes également consultant international et vous enseignez dans un business school. Docteur Yves Ekwea Maizo, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir chez vous depuis Vienne, en Autriche.
C'est moi qui vous remercie.